Nous allons donner une main d'acclamation à notre groupe musical qui ont bien joué et puis le président qui nous a accompagnés et puis le pianiste qui est là. Vraiment que Dieu soit loué et nous sommes bénis d'avoir une équipe formidable qui nous accompagne dimanche après dimanche, qui ne se lasse point et d'avoir aussi un peuple aussi fidèle comme vous l'êtes. C'est un don et une grâce de Dieu. Vous pouvez acclamer pour vous-même. On vous acclame, je vous acclame. Merci. Alors, comme vous le savez, la série d'enseignements que je vais commencer ce matin s'appelle « Toucher au ciel pour changer la terre ».« Toucher au ciel pour changer la terre » est un sujet très important que nous allons partager ce matin. Et ça a commencé déjà depuis quelques semaines, ou sinon je dirais la semaine dernière, on a commencé les annonces de cela, à faire la publicité de ce message-là qui s'en vient. Alors donc, je vais apporter la première partie ce matin, et puis dimanche prochain, et l'autre dimanche, je ne serai pas là, demain, je serai à Sorel-Tracy pour enseigner, et le dimanche, le 20 novembre, je viendrai pour clôturer, si le Seigneur n'est pas de retour, avec ce thème, « Toucher au ciel pour changer la terre ». Alors, est-ce que vous aimeriez toucher au ciel pour changer la terre? Vous voulez le faire?
Oui.
Parfait, que Dieu soit loué. Pour cela, moi aussi, je vais le faire. Vous savez, depuis la création, notre monde est en changement, les amis. Notre monde est en changement depuis la création. Et avant nous, et puis beaucoup de gens et beaucoup de personnes veulent changer le monde à leur façon et à leur manière. Vous savez cela. Et des gens se sont essayés. Mais j'aimerais ce matin, comme peuple de Dieu, ensemble avec moi, qu'ensemble que nous écoutons comment Dieu veut changer le monde avec nous. Dieu veut nous utiliser, toi et moi, ce matin. Chacun de nous, pour transformer le monde. Ce n'est pas un hasard que tu es assis ce matin dans cette salle. Ce n'est pas un hasard que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas un hasard que tu côtoies des chrétiens. Ce n'est pas un hasard que tu as été invité ce matin ici, si c'est la première fois que tu viens à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Ce n'est pas un hasard. Dieu a un rendez-vous divin avec toi et avec chacun de nous. Amen. Et j'espère que ce matin, après cette prédication ou les séries de prédications qui vont suivre, que Dieu va nous bénir, qu'il va changer nos vies, qu'il va nous transformer et qu'il va faire de nous des athlètes de la prière, des Usain Bolt. Vous connaissez des Usain Bolt? C'est ça, Usain Bolt. On veut être des Usain Bolt qui marchent pour Dieu, qui courent bien pour le Seigneur. Où est-ce que j'ai mis mon... Ok, ça y est là. Merci. Alors, vous savez... Je ne sais pas si ça marche là. En tout cas, c'est le vieux que moi j'ai amené là. Ça marche? Ok. Et voilà, mon plan d'action ce matin. On va aller avec ça. Introduction. Que voulons-nous changer sur la terre et comment voulons-nous la changer? Et application et conclusion. Ça va? Alors, voilà le chemin, le plan sur lequel on va circuler ou on va fonctionner ce matin. À mettre du temps pour changer, mon ami. André, il faut appuyer fort, hein. Donne-moi l'autre, s'il te plaît, Daniel. Merci. Je sais que tu fais tout, beaucoup de gymnastique pour nous aider avec ton équipe. C'est gentil de ta part. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet homme qui est devant vous. Alors, nous connaissons M. Bertrand Piccard. Combien de personnes le connaissent? Combien de personnes ont entendu parler de cet homme? Alors, c'est le monsieur, c'est un Suisse, hein, et un médecin. Il est né à Lausanne. Je suis allé faire des recherches sur lui pour pouvoir savoir qui il est un peu. Et il a grandi, et puis c'est un médecin psychiatre, mais aussi aéronaute, comme on le dit, aéronaute. C'est ça qu'il fallait que je retienne. Pour pouvoir le dire comme il faut. Et lui et son équipe ont décidé de changer le monde. Ils ont décidé de changer le monde comment? En montant un avion solaire pour voler dans le ciel et essayer de montrer au monde entier que nous pouvons vivre avec de l'énergie propre et diminuer le CO2 à la moitié que nous émettions présentement. Et il a fait cela. Et ça a généré beaucoup d'argent. Il a pris 15 ans pour réunir plus de 175 millions de dollars pour pouvoir bâtir cet avion-là. 15 ans. Mais avant, il l'avait déjà fait avec un ballon. Il a fait le tour du monde avec un ballon. Et je l'ai écouté récemment quand il parlait à Radio-Canada avec Anne-Marie Dussault dans une émission où il a beaucoup expliqué des choses. Et j'ai écouté ça attentivement parce que j'ai dit, mais ça touche ma prédication et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il va dire. Et puis, du moins, il était ce jour-là, on était les deux accrochés à ses babines. Hein? Et on l'a écouté. On s'est abreuvé de ses paroles quand il parlait. Et j'ai trouvé que c'était un homme intellectuel, un homme qui comprenait les choses, qui veut changer le monde, qui a le souci de la société et qui a le souci du bien-être de notre monde. Alors lui, il a voyagé dans le ciel pour pouvoir faire la promotion de cela. Un autre aussi a voyagé dans le ciel, c'est le clown milliardaire. On connaît beaucoup de clowns dans le monde, mais qui ne sont pas des milliardaires, mais ce clown-là est un milliardaire. Et Guy Laliberté, un Québécois canadien, qui est de la région de, vous savez c'est où? Qui sait où il vient? Pas de Tadoussac. Charlevoix. Oh, Benoît, Charlevoix. Ouais. Il vient de Charlevoix. Et j'étais allé à Charlevoix et puis j'ai vu là où il a travaillé, où ça a commencé ses débuts, tout. Mais cet homme est monté dans Soyouz. Soyouz, c'est une navette spatiale russe qui est allée dans la station internationale dans l'espace. Il a payé beaucoup de millions de dollars pour pouvoir se rendre là-bas. Il a été le premier touriste canadien et le premier clown mondial à aller sur la planète, dans l'espace. Et vous savez pourquoi il a fait cela? Quand j'ai lu sa biographie, et ici, si vous voyez réellement ce truc, il s'est touché au ciel, ou touché le ciel, et il est allé simplement, il y a un documentaire qui a été fait sur lui, dans le but de prouver que l'eau potable que nous avons est tellement importante que nous devons la protéger. Que l'eau potable est importante, que nous devons la protéger. Lui, au lieu de prendre son bâton de pèlerin pour se promener, il est allé au ciel, en haut, pour voir ça, pour pouvoir venir nous dire qu'il faut protéger l'eau potable. Et il a une organisation qui s'occupe aussi de donner, de permettre que les nations et des peuples puissent avoir accès à l'eau potable. Ces deux personnes ont volé dans le ciel pour essayer de nous convaincre que nous devons changer de comportement et d'attitude sur la terre. Nous, les terriens. Mais moi, ce matin, avec l'équipe des anciens, nous voudrons vous parler de toucher le ciel. Nous, on n'a pas volé au ciel. On ne volera pas au ciel non plus. Mais nous, on veut toucher au ciel pour changer la terre. Alléluia. On va toucher au ciel pour changer la terre. C'est ça qu'on veut. Comment? Par la foi. Comment? Par la prière. Et ça, c'est normal. On n'a pas des avions pour voler, mais nous avons quelque chose qui est plus puissant qu'un avion supersonique. La prière, la foi. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Que le Seigneur nous aide. Alors, si on vient à cela, que voulons-nous changer sur la terre? Eux, ils avaient pour objectif de montrer que l'eau était importante. L'autre avait pour objectif de montrer que nous devons mettre moins de CO2 pour que nous puissions vivre mieux sur la terre. Mais nous, nous voulons changer la condition humaine. La condition humaine, tant spirituellement que physiquement. Et cela, ce n'est pas nouveau. Comme Jésus peut nous dire, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous donne. Mais c'est la même chose, ce n'est pas nouveau parce que c'est le plan initial de Dieu depuis le commencement. Si je vous demandais pourquoi Jésus a envoyé et Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre, qu'est-ce que vous me direz? Tu murmures, moi je n'ai rien compris dans ça. Hein? Pour sauver le monde, pour changer le monde, pour transformer notre société. Et l'Église qui ne participe pas dans cela abandonne la vision primaire de Dieu Et Dieu, son plan initial, c'est de changer le monde, changer notre société, changer notre comportement, changer notre état spirituel, notre condition qui est opposée à une condition céleste. Alors, il veut nous transformer pour que nous puissions vivre avec lui au ciel. Aimerez-vous aller au ciel? Moi aussi. Là-bas, vous ne voulez pas aller au ciel? Ok. Comment nous pouvons faire cela? Comment allons-nous changer le monde? Nous voudrons le faire par cela. Nous voulons le faire réellement. Nous voulons changer la condition humaine de l'homme. Mais nous voulons le faire comment? Par la prière. Par le moyen de la prière. Quelqu'un me dirait, mais pourquoi la prière? Pourquoi pas par l'évangélisation? Pourquoi pas par le soutien missionnaire? Pourquoi pas par des activités sociales? Pourquoi pas par le sport? Pourquoi pas par le travail des aînés? Pourquoi pas par des visites à des personnes âgées? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait donner beaucoup d'activités qu'on pourrait énumérer ce matin, qu'on devrait passer par cela pour pouvoir faire, pour changer le monde. Mais ce matin, je crois que toutes ces choses sont bonnes. Oui, nous voudrons faire des activités pour changer le monde. C'est une bonne façon de faire. Mais ces choses ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas devancées par la prière, si elles ne sont pas entretenues par la prière, si elles ne sont pas inondées par beaucoup, beaucoup, beaucoup de prières. C'est ici que nous allons pouvoir changer le monde. Sinon, on devient un club social. Il y a des gens qui vont à la Kruger pour aller jouer là-bas. Des personnes âgées qui vont à la Kruger, mon beau-père, il s'en va des fois là-bas dans le temps. Donc, c'est du social qu'ils vont faire. C'est bien. Mais ça ne change pas le ciel. Ça ne change pas les humains sur la terre. Amen. Alors, par le moyen de la prière, nous voulons changer le monde. Par le moyen de la prière, nous voulons changer le comportement de l'humain. Nous voulons changer notre attitude. Nous voulons changer notre philosophie. Nous voulons changer réellement notre schéma de pensée. Alors nous voudrons que Dieu change notre vie et notre monde avec nous. Alors, je viens de vous parler qu'il y a des gens qui ont changé le monde et qui veulent changer le monde. Mais ce matin, nous avons deux exemples des personnes avant nous qui ont changé le monde de leur temps. Nous avons choisi la prière parce que ceux qui nous ont précédés ont prouvé que par la prière, on peut changer le monde. Et quand nous regardons la vie de Élie, Élie le Tishbite, l'Écriture nous parle de lui comme étant un homme puissant. Puissant en prière et puissant en œuvre. Et dans la parole de Dieu, dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 16, l'Écriture nous parle de Élie. Élie est présenté comme un modèle, comme un exemple aux chrétiens, les 12 tribus d'Israël qui étaient dispersées pendant la persécution. Jacques les écrit en donnant Élie comme un exemple par rapport à la prière. Et qu'est-ce qu'il nous dit quand nous lisons cela? Nous pouvons regarder dans Jacques chapitre 5, s'il vous plaît, pour ceux qui ont leur Bible. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez partager avec le voisin. S'il refuse, vous pouvez lui arracher sa Bible, je vous permets ça. Il doit partager avec vous. Ça peut aller? Jacques chapitre 5. Nous pouvons regarder dans Jacques chapitre 5 à partir de verset 16. Alors, la parole de l'Éternel est adressée ainsi dans Jacques chapitre 5 à partir de verset 16. Il dit ceci. Je peux le lire pour vous. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez bénis et vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point et il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit des son fruit. Amen. On dit Élie était de la même nature que nous. Mon point ici, c'est pour vous dire que la prière est importante. Vous pouvez dire, mais Adama, la prière là, nous on trouve que ce n'est pas assez, ça ne peut pas faire grand chose. Mais j'aimerais, mon frère, ma soeur, que ce matin, que tu saches que la prière fait grande chose.
Élie, par sa prière, a fermé le ciel. Il a fermé le ciel. Et par sa prière, il a créé un cataclysme sur la terre. Une sécheresse. Tout Israël a connu la sécheresse. Il n'y avait pas d'eau nulle part pendant 3 ans et 6 mois. Par la prière d'un individu. Il croyait qu'il était le seul dans tout Israël qui croyait en Dieu, qui était demeuré fidèle. Et plus tard, Dieu va lui dire, Élie, Élie, calme-toi. J'ai encore 7000 personnes qui ne sont pas prosternées devant Baal. Alors Élie ferme le ciel par sa prière et il ouvre le ciel par sa prière à volonté. La prière est-elle efficace ou non? Elle est efficace? Et l'Écriture nous dit que Élie était de la même trame que nous, de la même nature que nous. Il mange comme toi, il boit comme toi, il s'assoit sur le bol comme toi, il dort comme toi, il se lève comme toi, il dort, il fait tout comme toi. Et il a le même Jésus, le même Dieu que toi en lui. Et il prie, il change la destinée d'une nation. Il change les conditions d'un peuple. Alors la prière, si quelqu'un te dit que la prière n'est pas efficace, lève-toi et quitte auprès de la personne parce que ça, la personne ne veut pas croire, elle est incrédule. La prière est puissante. Si Élie a fait ça et qu'on nous donne cela en modèle, en exemple, c'est pour que toi et moi nous puissions prier et que nous puissions changer la condition de notre nation et les hommes de notre temps. Amen. Élie a été pertinent auprès de ses contemporains. Le sommes-nous, nous, pertinents auprès de nos contemporains? Dans notre quartier, dans notre famille, dans notre village, dans notre, avec nos enfants, nos petits-enfants et dans notre travail, sommes-nous des hommes et des femmes pertinents auprès de notre nation en rapport avec la prière? À quoi ressemble ta vie de prière, mon frère, ma sœur? As-tu une vie de prière bouillante ou fade ou tiède? Mais j'aimerais ce matin qu'au travers de cette série de prédications, d'enseignements qu'on va donner, s'il vous plaît, mon frère, ma sœur, et moi-même, que Dieu nous réveille si nous dormons. Que Dieu suscite en nous, qu'il jette le feu de la prière, le feu de la passion de la prière en nous, ce zèle que nous avons besoin pour avancer et transformer notre société autour de nous. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre le fera. Parce que nous sommes des agents du changement que Dieu a établi. Il nous a donné son Saint-Esprit. C'est ce que Élie avait. Et ce même Élie-là, qui a changé, qui a fermé le ciel, il a ouvert le ciel. Et quand il devait, il n'est pas mort, hein, il est monté au ciel. Il est monté au ciel dans un chariot de feu. Seigneur, ce matin, notre prière que tu nous donnes, la double portion d'esprit d'Élie. Amen. Et la deuxième des choses, deuxième exemple de la prière, les disciples avant nous. Quand nous lisons dans Actes chapitre 1, versets 12 à 14, les disciples étaient de retour, Jésus-Christ était ressuscité. Et maintenant, ils devraient partir, ils sont allés sur le mont des Oliviers où le Seigneur va les quitter. Et pendant ce temps, le Seigneur va partir, il va être enlevé, ils sont tous là, ils le voient partir. Et on dit que les disciples sont retournés à Jérusalem, dans la chambre haute. Et c'est là qu'ils vont prier. Il dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est auprès de Jérusalem à la distance d'un sommet de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous, dans un commun accord, persévérèrent dans quoi? Et avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, était avec, et avec les frères de Jésus. Les disciples sont retournés et ils vont dans la chambre haute. Ils ne vont pas pour faire autre chose. Ils ne vont pas pour jouer aux poches. Je ne sais même pas si ça existait. Ils ne vont pas pour s'amuser. Ce qu'ils font comme activité, c'est la prière. Et ils n'étaient pas seuls. On dit qu'il y avait des femmes aussi avec, hein? Avec des femmes, des hommes, et ils prenaient le temps, ils priaient. Ils priaient pour quoi? À votre avis, ils priaient pour quoi? Parce qu'ils avaient peur? Ils priaient pour quoi? Ils priaient pour recevoir la promesse que Jésus avait dit. Dans Jean 14, Jésus leur dit, « Je m'en vais, je ne vous laisse pas orphelins. Quand je m'en serai allé, je vous enverrai un Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il viendra, il sera avec vous, il habitera en vous. » Alors, dans la prière, dans la chambre haute, ils étaient en prière pour recevoir la promesse de Dieu. Je vous assure, dans Actes chapitre 2, quand les disciples ont reçu la promesse de Dieu, ils ont bouleversé le monde. Ils ont transformé le monde. On voit Pierre qui se lève devant 3000 personnes, devant plusieurs personnes plutôt, et il prêche sa première prédication. 3000 personnes viennent au Seigneur. Waouh! C'est fort ça! 3000 personnes pour une seule prédication. L'église du Cap est pleine, il n'y a plus de place. On commence l'agrandissement demain matin. Deuxième phase, il n'y a plus de place. On achète les terrains des voisins et puis on fait un parking. Une seule prédication, 3000 personnes sont converties. L'Esprit de Dieu est en lui. En eux, ensemble, ils chambardent toute la ville de Jérusalem. Je vous assure, mes frères et sœurs, si nous travaillons, et ils étaient 12, nous sommes ici plus que 100 personnes. Si nous sommes tous remplis de l'Esprit de Dieu et que notre ville ne tremble pas, il y a un problème. 12 personnes ont bouleversé une ville. Nous sommes plus de 100 personnes ici. Et si nous mettons tous les chrétiens de la ville de Trois-Rivières, nous valons peut-être 1000 personnes, si j'exagère. Et si notre ville ne bouge pas, il y a un problème. Le problème, c'est pas parce que Dieu n'est plus puissant. Le problème, c'est pas parce que le Saint-Esprit ne travaille pas. Le problème, c'est pas parce que la Bible n'est plus à date. Le problème, c'est toi et moi. On ne laisse pas Dieu être Dieu dans notre vie. On ne laisse pas Dieu prendre la place qui lui revient de droit. On ne laisse pas Dieu nous conduire comme on devrait être conduit. Alors, tantôt, on dit, Seigneur, laisse le volant, je connais Trois-Rivières, je chauffe moi-même. Quand je vais sortir de Trois-Rivières, tu peux prendre le volant. Non! Dieu veut être le chauffeur toujours. Amen. Pourquoi? Par la prière. Pourquoi nous voulons changer le monde par la prière? Parce que c'est le moyen que Dieu nous donne. La prière, c'est le moyen le plus efficace que Dieu donne. Dieu a institué cela par Jésus-Christ lui-même. Dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 11, à 15, la prière a été instituée par Dieu lui-même. Il enseigne cela aux disciples, on va voir bientôt. Ça a été encouragé par Jésus lui-même. Et aussi, pour faire connaître nos besoins, l'apôtre Paul parle aux chrétiens de Philippe. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'Écriture nous dit, prier, c'est le moyen par lequel nous pouvons entrer en contact avec Dieu. Amen. C'est un moyen efficace. L'Écriture nous dit, priez dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse, priez continuellement. C'est un état, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est une façon de penser, une façon de réfléchir, une façon d'agir. Priez sans cesse. Quand les musulmans me disent qu'ils prient 5 fois par jour, je dis, j'étais dedans. J'ai prié 5 fois par jour, 36 fois de prosternation. Et il dit, mais tu as quitté l'islam à cause que tu n'es pas capable de faire ça. J'ai dit, wow, En Christ, là, on dit qu'il faut prier toujours. Est-ce que tu es capable de prier toi toujours? Moi, je prie toujours. Je suis constamment en contact avec Dieu. Le téléphone de Dieu ne dérougit pas. Amen. Oui, si nous voulons toucher le monde, si nous voulons toucher le ciel et changer la terre, nous devons obligatoirement prier. Et cela nécessite deux choses, la foi et savoir avoir et savoir prier. Avoir la foi et savoir prier. Ça prend ces deux choses-là, c'est indispensable. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prier. Et l'Écriture nous dit, dans Hébreux 11, 6, il nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire que si tu n'as pas la foi là, c'est l'épicentre, c'est la pierre angulaire de la vie du croyant. S'il n'a pas la foi, il ne peut en aucun moment être en contact avec Dieu. Le contraire de la foi, c'est quoi? L'incrédulité. Un incrédule ne peut pas être sauvé s'il ne change pas, s'il ne reçoit pas la foi. La foi, c'est le moyen qui nous permet d'atteindre, de recevoir la grâce de Dieu, d'entrer en possession des promesses de Dieu. Et si on n'a pas cette foi-là, on est foutu. L'Écriture nous dit cela. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la... Et cela ne vient pas de... C'est un don de Dieu afin que personne ne se... Aha! Afin que personne ne se glorifie. C'est ce que l'Écriture nous dit, frères et sœurs. La foi, c'est le moteur. Si je sors présentement et que nous partons dehors, nous tous nous sortons, et que nous trouvons le moteur de notre véhicule à terre, vous êtes certain que vous n'irez pas chez vous à la maison. Et c'est la même chose. Si ta foi, tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux rien recevoir de Dieu. Absolument rien. Mais maintenant, nous avons besoin de la foi, mais nous avons besoin de savoir prier aussi. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un n'a pas la foi et il ne sait pas prier? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu manques de foi et que tu ne sais pas prier, la bonne nouvelle, c'est que la foi, ça se demande. Si vous demandez, Dieu va vous donner la foi. Et nous trouvons cela dans l'Évangile. Quand le monsieur est venu pour demander de l'aide au Seigneur, il dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et Dieu est venu au secours de son incrédulité et il a pourvu à son besoin. Amen. Alors ce matin, tu peux dire, Seigneur, je n'ai pas la foi, je suis incrédule, je ne sais pas comment ça se passe. Je te prie, dans ton amour et dans ta grande bonté, toi qui sais façonner toutes choses, toi qui appelles des choses qui viennent du néant et qui existent, alors crée la foi en moi. Donne-moi d'avoir la foi en toi, la foi qui sauve, la foi qui transporte les montagnes. C'est celle-là que je veux. Tu peux demander cela ce matin. Tu peux aussi apprendre à prier. La prière, ça s'apprend. On ne naît pas avec la prière, on l'apprend. Amen. Et comme quand nous naissons, nous apprenons à parler, nous apprenons à faire quatre pattes, nous apprenons à boire, nous apprenons à nous coucher à des heures que nos parents nous fixent, nous apprenons à conduire, nous apprenons à lire à l'école, nous apprenons tout. J'ai l'impression que dans la vie, tout est à apprendre. Hein? Même présentement, ma femme, elle m'étudie encore. Elle m'apprend. Et moi aussi, je l'apprends. Donc, la vie est une mode d'apprentissage tous les jours. Alors, donc, tu peux apprendre à prier. Tu as dit, oh, moi, je ne sais pas prier. Ce n'est pas dans mes cordes. Ce n'est pas dans mes tempéraments. Je ne connais rien de tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Non, non, non. Tout le monde peut apprendre à prier. C'est une question de volonté et de vouloir. Amen. Comme on nous dit, c'est en forgeant qu'on devient. Le forgeron, le bébé, il ne vient pas au monde avec un marteau. Hein? Il l'apprend. Alors donc, en forgeant, on devient forgeron. Nous voulons transformer le monde. Nous voulons toucher le ciel. Et c'est pourquoi je dis qu'à la fin de cette série, nous devons tous devenir des Usain dans la prière. Vous connaissez cet homme-là? Quels sont ceux qui le connaissent? Pendant, il est le champion du 400 mètres aux Jeux Olympiques. Du 100 mètres et du 200 mètres. Personne n'a pu le détrôner de là. C'est un Jamaïcain et il court toujours, il gagne. Alors j'aimerais que chacun de nous, nous soyons comme ça dans la prière. Aiguiser notre foi, aiguiser notre cœur, aiguiser notre esprit. Et quand nous rentrons dans la chambre de prière, le diable, il tremble. Son monde, il tremble. Amen. J'aimerais que nous lisons cela, un appel à la prière. Personne n'est plus grand que sa vie de prière. Le pasteur qui ne prie pas s'amuse. Les gens qui ne prient pas s'égarent. L'Église moderne est pauvre et faible. Il y a beaucoup de gens pour organiser, mais peu pour agoniser. Beaucoup pour s'amuser, mais peu pour prier. Beaucoup pour flâner, mais peu pour lutter. Beaucoup de superficialité, mais peu de spiritualité. Beaucoup de gens pour contester, mais peu pour intercéder. Les deux choses sont indispensables à une vie de chrétienne victorieuse, sont la vision et la passion qui naissent tous deux et qui naissent et qui s'entretiennent tous deux dans les supplications. Le ministère de la parole est donné à quelques-uns, mais celui de la prière, la plus importante ou le plus important, est donné à tous. Ce monde avance vers l'enfer à une vitesse vertigineuse. Mais cependant, plusieurs d'entre nous seraient incapables de se souvenir de leur dernière veille de prière en faveur de ce monde. Il nous manque de compassion et d'inspiration. Nous confondons action et onction, agitation et réveil, décision et conversion. Le secret de la prière, c'est la prière en secret. Celui qui vit dans le péché cessera de prier et celui qui pêche, et celui qui prie cessera de pécher. Nous sommes pauvres et faibles, mais non brisés, misérables, mais non humiliés. Et on ne peut nier que le problème des églises modernes est souvent un problème d'argent. Or, ce que nous trouble aujourd'hui était le moindre des soucis des églises, de l'église primitive. Eux, ils mettaient l'accent sur la prière. Nous, nous mettons l'accent sur l'action. Nous, nous allons de l'avant en payant. Eux, ils secouaient le monde en priant. Rien ne peut remplacer la prière fervente. Nous y consacrons ou nous périssons. Un homme n'est jamais plus grand que lorsqu'il est à genoux. Un homme n'est jamais plus grand que lorsqu'il est à genoux. La grandeur et la spiritualité d'un homme ou d'une femme est évaluée à combien de temps il passe à terre, à genoux, devant son Dieu et prier et supplier son Père. Le nombre de temps que nous passons à terre, dans la présence de Dieu, dans l'adoration, c'est ce qui détermine ton caractère, c'est ce qui détermine ta spiritualité, c'est ce qui démontre ta grandeur dans la foi. Ce n'est pas la grande théologie qu'on enseigne, ce n'est pas les grands chants que nous chantons, ce n'est pas les ministères même que nous exerçons dans la maison de Dieu qui fait de nous un grand homme ou une grande femme de Dieu, mais c'est le temps que nous passons à genoux, aux pieds du Maître. La grandeur et la profondeur d'un homme et d'une femme est évaluée par rapport à cela. Ce matin, à quoi ressemble ta vie de prière? Ma vie de prière, notre vie de prière comme église. Sommes-nous une église bouillante pour Dieu? Sommes-nous des hommes et des femmes qui passent du temps dans la prière? Ou bien nous passons plus de temps devant la télévision, devant notre ordinateur, devant notre cellulaire, devant le jeu Nintendo, devant des activités ailleurs. Combien de temps nous passons dans la prière? Pendant que nos enfants se périssent. Pendant que beaucoup d'enfants ont abandonné le Seigneur. Pendant que nos frères et nos sœurs sont loin de Dieu. Nous passons plus de temps dans le travail que dans la prière. Je comprends qu'il faut travailler pour vivre, mais on ne vit pas pour travailler. Combien de temps nous mettons? Il y a des gens qui disent « je travaille 80 heures ». Bravo, c'est bien. Mais combien de temps tu mets pour tes enfants? Et après on dit « prie pour mon enfant, il ne marche pas avec Dieu ». Prie pour mon mari, il ne suit plus le Seigneur. Prie pour ma femme, il y a tel problème. Prie pour telle personne. Je ne dis pas de ne pas nous dire de prier. Ça nous fait plaisir de prier. Mais je veux savoir, toi, en tant que la personne concernée, combien de temps tu mets à terre devant ton Dieu? Combien de temps tu as prié pour pleurer, le supplier, jeûner et te priver de la nourriture, te priver de boire, te priver de dormir et de dire, Seigneur, cette cause me tient tellement à cœur que je me prive de tout. Je veux que le ciel descende sur la terre. Je veux que tu me touches. Je veux que tu changes des vies. Je veux que tu changes des cœurs. Je veux que tu transformes notre société. Combien de temps avons-nous mis dans la prière? Nous ne faisons pas cela, frères et sœurs. Pourquoi nous voulons avoir des résultats pour des choses qu'on n'a pas travaillées? Tu ne t'entraînes pas. Tu ne cours pas. Tu ne vas pas au gym. Mais après, tu veux avoir des plaquettes de chocolat sur ta bédaine. Ça ne marche pas. Tu veux avoir des muscles sur le bras. Ça ne marche pas. Mon frère, Steve Lefebvre, quand je le vois, je l'appelle mon coq. Parce qu'il est tough, il est en forme. Quand il le touche, tout est muscle en lui. Mais il s'entraîne tout le temps. J'aimerais en avoir des plaquettes de chocolat comme lui, mais il n'y en a pas. Il n'y a que des Michelin qui poussent devant. Des fois, ça fait un oreiller pour ma femme, ça lui fait du bien. Alors, donc, frères et sœurs, fléchissons le genou pour notre Dieu. Nous ne pourrons pas changer le monde si nous restons tels que nous sommes. Nous avons tous les outils. Nous n'aurons pas d'excuses devant Dieu, moi le premier. Mon métier, c'est d'être sacrificateur et être à genoux. Tous les anciens, leur métier et leur appel, c'est d'être à genoux devant Dieu. Nous n'avons pas d'excuses. La prière, ce n'est pas facile. C'est difficile. Mais nous devons nous y adonner. On doit se consacrer à cela. Sinon, nous périssons. Maintenant que nous savons cela, comment voulons-nous changer? Et nous voulons savoir qu'est-ce que c'est que la prière. Nous savons qu'il est important de prier. Mais c'est quoi la prière? Est-ce que vous savez ce que c'est que la prière? Prier, c'est un dialogue, c'est parler. C'est parler avec Dieu. Prier, la prière, c'est parler avec Dieu, mais c'est aussi écouter Dieu. C'est communiquer avec Dieu. C'est passer du temps dans l'intimité de Dieu. C'est l'homme créature devant son Dieu créateur, l'enfant devant son Père. Prier, c'est être vrai devant Dieu. On ne peut pas venir devant Dieu en hypocrisie. Elle dit, venez, bon. J'ai mal quelque part, mais je ne veux pas que le Seigneur il dit, tu as mal où? C'est à la tête ou tu as mal où? Tu as mal au pied. J'ai mal au pied. Il dit, mais non, j'ai mal à la tête. J'ai fait du mal à qui? Si je rentre dans la prière que je ne suis pas authentique, que je ne suis pas honnête, je fais du mal à qui? À toi-même. Alors nous devons être honnêtes dans notre prière. Nous ne pouvons rien cacher devant Dieu. Prier, c'est être authentique, c'est être vrai. Prier, c'est l'homme à sa vraie place. Prier, c'est reconnaître que sans Dieu, je ne suis rien. Je ne peux rien faire. Et la prière, c'est entrer dans l'intimité de Dieu. Comme une femme et son mari sont dans leur chambre à coucher, c'est l'intimité où les enfants n'ont pas accès, où les amis n'ont pas accès. Et quand je rentre dans la chambre de prière, quand je rentre en prière, je suis dans l'intimité avec Dieu. Je suis en conversation avec Dieu. Je parle avec lui. Le téléphone, s'il sonne, on lui dit « tais-toi ». Je suis en conversation. Et on doit même éteindre le téléphone totalement. Pour ne pas être dérangé. Qu'est-ce que c'est que la prière? Prier, c'est dialoguer. J'ai dépassé tout cela tantôt. Qu'est-ce qui se passe? Je viens. Excusez. Ok. La prière, c'est le dialogue et la prière. On fait, vient de faire cela. Prier, c'est dire ce qui est vrai devant Dieu. Prier, c'est l'homme dans l'intimité de Dieu. Prier, c'est un homme vrai à sa vraie place. Prier, c'est reconnaître que sans Dieu, que je ne suis rien. Et nous ne pouvons rien sans Dieu. Et l'Écriture nous le dit. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Quand je prie, je montre ma faiblesse à Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à mon aide. Quand j'avais été chassé de ma famille parce que je suis devenu chrétien, de mon ancien état de musulman, je me suis ramassé à l'église avec des frères d'autres personnes et que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève avant. Et puis, nous avons commencé à cultiver du temps ensemble. Et chacun avait ses propres besoins. Comme on dirait en bon québécois, chacun avait son chat à fouetter. Quand je manquais de quoi, et ces moments-là m'ont permis de développer un temps de prière avec Dieu. Et je l'appelle papa. Papa, si tu ne fais rien pour moi, personne ne fera quelque chose pour moi. Mon père biologique m'a mis dehors. Ma mère m'a mis dehors. Mes cousins, mes tantes et mes oncles m'ont mis dehors. Le gouvernement ne fait rien pour moi, il ne me connaît même pas. Seigneur, si tu ne fais rien pour moi, je suis fait à l'os. Je vous assure que Dieu a été fidèle, il a toujours répondu. La preuve est que je suis devant vous aujourd'hui. Dieu a répondu fidèlement. Des fois, je n'ai rien. Je n'ai qu'un seul billet que quand je vais finir de dépenser, il n'y a plus rien. Croyez-le ou pas, quelqu'un de passage, il vient me saluer, il me donne un billet d'argent. Cependant, je ne lui ai même pas expliqué mon problème. Dieu a répondu comme ça. Alors vous allez vous poser la question, est-ce que Dieu exauce les prières encore aujourd'hui? Oui, Dieu exauce les prières encore aujourd'hui. Quand je suis allé le mois dernier en Suisse, j'ai parlé avec les gens et quand on a fini, j'ai un couple qui m'a reçu et j'ai prié avec lui. Il me dit, vous priez au cap de la Madeleine comme ça? J'ai dit, je ne connais pas tout le monde, mais moi je prie comme ça. Il dit, mais tu crois que Dieu peut répondre? J'ai dit oui. Pourquoi appeler un Dieu s'il ne répond pas? Pourquoi adresser une prière à un Dieu qui ne répond pas? Moi, le Dieu que j'adore, il répond. Il s'appelle Jéhovah Jiré. À la montagne de l'Éternel, l'Éternel pourvoira. Amen. Alors, je lui ai dit que mon Dieu, il pourvoit. Je vais prier, il va pourvoir pour toi. Il dit, je ne suis pas capable de vivre de mon métier. Je dis, ce n'est pas normal. On va prier quand l'Éternel répondra. Tu sauras qu'il y a un Dieu dans le ciel qui répond encore en 2016 à des prières. Et j'attends la réponse parce que je crois que le Dieu Jéhovah Jiré, Yahvé, va répondre à cette prière. Pas parce que c'est moi qui a prié, mais parce que c'est son nom qui est en question. C'est son honneur qui est en question. C'est sa gloire qui est en question. C'est lui qui a promis, appelle-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. C'est lui qui a dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Car celui qui demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. C'est pas mon papa au Burkina Faso qui a dit ça. C'est le Dieu Yahvé des cieux qui a proclamé cela. Alors quand je viens devant lui, papa, tu as dit. C'est ta parole. Puisque tu ne peux pas mentir. Et l'Écriture dit dans Nombre 23, 19, il dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors comme il ne peut pas se renier lui-même, Seigneur, tu as dit. Alors je crie à toi. Et Jésus-Christ nous dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors quand je prie, papa, tu as dit, si on demande en ton nom, tu le feras. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors moi j'ai demandé, glorifie-toi. Amen. Ça va? Alléluia. Maintenant nous savons ce que c'est que la prière. Et il y a plusieurs façons de prier. Plusieurs systèmes. Plusieurs types de prières. Il y a des prières d'intercession, les prières d'adoration, les prières de louange. Il y a des prières aussi qu'on appelle de type libre, où je peux prier à n'importe quel moment. Mais ce matin, cette prière que nous avons devant nous, c'est la prière du Père, où il va nous parler de ces trois aspects dedans. Quand les disciples vont voir le Seigneur, ils vont lui demander, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Dans Luc chapitre 11, verset 1 à 4, le Seigneur va apprendre aux disciples. Il dit, enseigne-nous à prier comme Jean a montré à ses disciples à prier. Montre-nous cela. Ce qui me touche dans ce passage, c'est que les disciples ne demandent pas à Jésus, montre-nous à prier comme les pharisiens le font avec leurs disciples. Les pharisiens aussi apprenaient à leurs disciples à prier. Mais ils ne demandent pas ça. Il dit, montre-nous à prier comme Jean l'a fait. Ça veut dire que Jean était reconnu comme un homme de prière et qui priait d'une manière juste et qui savait s'adresser à Dieu de la bonne forme, de la bonne manière. Donc, ce n'était pas le gars qui s'arrêtait au coin de la rue et puis qui criait pour que tout le monde le voie là. Ce n'était pas ça. Donc, il priait une prière correcte. Alors, comment on s'approche de Dieu, frères et sœurs? Puisque je vous ai dit que la prière, ça s'apprend. Alors, s'approcher de Dieu. Quand nous regardons dans ce passage, Jésus dit aux disciples, si vous priez, dites « Notre Père » dans Matthieu. Mais dans Luc, il dit « Dites Père, que ton nom soit. » Qu'est-ce que cela, ça voudrait dire? Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit mis à part. Que ton nom soit prononcé avec dignité. Que ton nom ne soit pas pris en vain. Parce que dans Exode 20, il est dit, tu ne prononceras pas de l'Éternel, le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Alors donc, je ne peux pas prendre le nom de l'Éternel mon Dieu en vain. Que ton nom soit honoré. Et je dois que tu sois reconnu comme Dieu. C'est ça, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne et que ta volonté soit. Alors, il demande cela. Il montre un chemin au peuple, aux disciples. La première partie parle réellement, quand je m'adresse à Dieu, Père, c'est une question de relation. Quand je parle réellement, dans ce cas-là, je dis, que ton nom soit sanctifié, je me concentre sur la personne de Dieu. J'adore Dieu lui-même. Je suis en mode adoration. Je m'intéresse à la personne de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, je parle de Dieu lui-même, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel, parce que la volonté de Dieu n'est pas encore faite partout. Alors que ton règne vienne, je prie, je m'intéresse à Dieu lui-même, à la personne de Dieu. Ça c'est comme je sors, je viens dans un premier salon, je parle avec Dieu, je le loue, la louange. La deuxième partie, je l'adore. Et la troisième partie, quand il vient, il demande... Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est la période de sanctification. Je me sanctifie, je demande pardon à Dieu, je me purifie. Et à la fin, je clôture par une louange qu'on appelle doxologie. Une louange. Donc, c'est un cheminement qu'on fait. Tu ne peux pas débarquer dans le salon de Dieu n'importe comment. Et quand on vient avec respect, il y a de l'ordre à suivre. Si tu veux prier efficacement, aussi longtemps que possible, avec pertinence, c'est de suivre certaines méthodes. Et cette méthode, c'est, je commence par la louange, par l'adoration, par la sanctification, c'est ce que Jésus donne comme un modèle, et ça termine par une louange. Mais moi, ce qu'on m'a enseigné quand j'étais jeune, dans ma foi chrétienne, je ne sais pas combien de personnes ici, quand ils sont devenus chrétiens, on les a enseignés à prier. Il y en a? Combien de personnes? Alors donc, vous devez tous aller dans deux semaines ou trois semaines. Il va avoir une école en haut pour enseigner sur la prière. Vous devez tous aller voir Jean Lépine pour cela, en haut là-bas. Jean, tu as compris? Regarde, beaucoup n'ont pas levé la main. Ça veut dire qu'ils n'ont pas appris quand ils sont nés nouvellement comment prier. Alors, tu as toute une classe. Alors, on doit apprendre à prier. Et quand on me disait, on dit, Adama, tu viens dans la présence de Dieu, tu dois te sanctifier. Ça, c'est la manière du sacerdoce. Quand on va dans le lieu saint, devant le tabernacle, les gens vont se nettoyer, laver les pieds, la purification, et avant de rentrer dans le lieu saint. Et après, ils vont aller dans le lieu très saint. Alors donc, ça, ce sont des étapes que nous faisons dans la prière. Et si tu ne fais pas ça, tu vas prier, c'est vrai, mais c'est désordonné, tu ne peux pas prier longtemps. Est-ce que je me fais comprendre? Jean-Guy, est-ce que je me fais comprendre? Merci, frères et sœurs. Mon but ce matin, dans les applications que nous avons, tu viens d'apprendre que la prière est importante. Tu viens d'apprendre que Dieu veut changer le monde avec toi, mais avec la prière que tu vas faire. Tu viens d'apprendre que tu peux apprendre à prier, que tu peux prier. Tu viens d'avoir le chemin. Alors, maintenant, à bon entendeur, salut. Vous comprenez ça? Ça voudrait dire que nous devons savoir comment prier. Maintenant, on vous a montré une partie de tout. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais 35 minutes, 45 minutes, on ne peut pas tout dire. Mais dans l'avenir, on pourra continuer. Je m'excuse si j'ai dépassé de 5 minutes pour me rattraper. Je vais me rattraper la semaine prochaine. Je vous donne votre 5 minutes la semaine prochaine. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. En tant que tes enfants, nous voulons te demander pardon là où on a été faible, là où on n'a pas fonctionné comme il faut, où on n'a pas prié comme il faut, où on a manqué. Nous voulons te demander pardon pour cela. Maintenant, Papa, nous te demandons de faire de nous une nation qui aime prier, un peuple qui va t'aimer, qui va prendre plaisir dans ta présence. Et aide-nous à pouvoir mettre en application tout ce que nous avons appris. Crée en nous la passion. Crée en nous le feu. Crée en nous le désir où il n'y en a pas. Crée en nous cette joie qu'on peut avoir dans la présence de sa fiancée et de son fiancé. Crée en nous, Seigneur, cette grande passion que ton esprit peut donner pour que nous trouvions plaisir dans ta présence et que nous aimons ta présence plus que les plaisirs de ce monde. Nous te prions, nous te bénissons. Accompagne chacun de nous dans ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.